Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problèmes trouvés dans le monde en y apportant un regard biblique.
La pauvreté et la prospérité. Voici le thème qu'Yann et son invité Jean-Luc vont à présent aborder.
Depuis quelques émissions, nous réfléchissons sur les écarts qui existent entre les riches et les pauvres, et nous cherchons à apporter à ces réflexions un regard biblique. Nous pouvons affirmer que Dieu se soucie de la condition des hommes, et il désire aussi voir régner la justice. Il désire un partage équitable des ressources dans le monde. Que dit la Bible à ce sujet? Jean-Luc est de retour parmi nous afin d'y répondre. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. À travers la lecture de la Bible, nous découvrons que Dieu soutient celui qui ploie victime d'injustice. Il apporte son secours aux démunis, répondant à celui qui se tourne vers lui. Toutefois, Dieu charge les hommes de mettre en place des sociétés où règne l'équité. Il les charge d'établir des lois justes et d'instituer des moyens pour venir en aide aux nécessiteux.
Nous apprenons en lisant la Bible que Dieu a remis à Moïse des lois destinées à aider les hommes à mieux gérer la vie sociale et culturelle de la nation d'Israël. Parmi ces lois, y en a-t-il qui touchent aux problèmes dont nous parlons et que pouvons-nous en apprendre aujourd'hui?
Oui, ce code de loi que vous venez de mentionner se trouve dans les livres bibliques appelés Exode, Lévitique, Deutéronome. Nous n'avons malheureusement pas le temps de passer en revue, une à une, les lois concernant la justice sociale. Toutefois, nous pouvons affirmer que par elles, Dieu désirait assurer un partage équitable des terres. Il désirait également protéger la position des faibles et des vulnérables, voulant faire bénéficier aux démunis des ressources minimales leur permettant de survivre.
Pouvez-vous illustrer ce que vous dites par un exemple ?
Pour expliquer quelques-unes de ces lois, je voudrais raconter l'histoire vraie d'une famille qui a vécu en Israël au temps des juges.
À qui pensez-vous?
Je pense à l'histoire de Ruth, dont nous trouvons le récit dans le livre biblique qui porte son nom. Mais tout d'abord, je voudrais parler de sa belle famille.
Et quelle est-elle?
Les beaux-parents de Ruth s'appelaient Élimélec et Noémie. Ils avaient deux fils. Cependant, à cause d'une mauvaise récolte en Israël, Élimélec décida de vendre ses terres et il se rendit à l'étranger pour y vivre. La suite de l'histoire nous apprend que la décision de cet homme s'est avérée imprudente, car par cette vente, il priva sa famille de l'héritage accordé par la loi et du moyen de subvenir aux besoins de sa famille.
Et que s'est-il passé par la suite?
Cette famille s'était installée à Moab, un pays voisin. Là, les deux fils d'Élimélec se sont mariés à des Moabites, dont l'une d'elles s'appelait Ruth. Malheureusement, cette famille a vécu des tragédies. Élimélec est mort, puis ses deux fils, laissant Noémie et ses deux belles-filles veuves. Or, à cette époque, il incombait aux hommes de pourvoir aux besoins de leur famille. Nous pouvons donc imaginer la situation précaire dans laquelle ces trois femmes se sont trouvées tout d'un coup. Dans l'espoir d'y remédier, Noémie décida de retourner dans son pays natal, Israël. Et l'une de ses belles-filles voulut rester auprès d'elle afin de l'y accompagner.
Ces deux femmes se sont donc rendues ensemble en Israël, totalement démunies. Y ont-elles trouvé un secours et si oui, comment?
Pour répondre à votre question, je voudrais parler d'une loi importante donnée par Dieu à Moïse.
Et quelle est-elle?
À l'époque de la moisson, les fermiers ne devaient pas procéder à la récolte totale de leurs champs. Ils devaient y laisser de quoi nourrir les pauvres qui, après le passage des ouvriers, pouvaient glaner sur les terres cultivées et trouver ainsi de quoi se nourrir. De cette manière, ceux qui, pour différentes raisons, se trouvaient démunis, pouvaient subvenir à leurs besoins et survivre.
Donc Ruth et Noémie ont pu bénéficier de cette loi et faire face à une situation d'urgence.
C'est exact.
Mais aujourd'hui, nous n'avons pas forcément le même système économique en place dans nos pays.
Beaucoup de pays à travers le monde pratiquent encore l'exploitation agricole de subsistance qui ressemble à la situation que je viens d'évoquer. Mais le principe que nous pouvons tous retenir est celui-ci. Une partie de la production d'une société doit être mise de côté afin de secourir celui qui, pour diverses raisons, se trouve dans une situation précaire. Ceci afin de venir en aide, par exemple, aux veuves et aux orphelins, aux malades et aux invalides ou aux réfugiés. Dieu, à travers la loi de Moïse, nous enseigne que chaque société a pour responsabilité de pourvoir, d'une manière ou d'une autre, aux besoins des plus démunis.
Ruth et Noémie ont donc pu subvenir à leurs besoins immédiats grâce à ce droit de glaner dans les champs. Mais cela peut-il répondre aux besoins à long terme?
La suite de ce récit nous montre que Dieu a pourvu en faveur de Noémie et de Ruth.
Et comment cela s'est-il passé?
Selon la loi de Moïse, celui qui avait un lien de parenté avec la personne démunie devait la prendre sous sa protection afin de lui assurer un avenir. Or, Ruth et Noémie étaient justement parentes avec un homme nommé Boaz. Pour remplir ses responsabilités, Boaz s'est marié avec Ruth et il a aussi racheté les terres que le mari de Noémie avait vendues. Les nouveaux propriétaires de ces terres n'avaient pas le droit de refuser leur vente à Boaz, qui exerçait son droit de rachat en faveur de Ruth et Noémie. Et c'est ainsi que ces deux femmes purent réintégrer la société et retrouver la sécurité matérielle.
Que devons-nous retenir de ce récit concernant Ruth et Boaz aujourd'hui?
La leçon que nous pouvons en tirer est celle-ci. Dieu désire que les lois et les coutumes de chaque société puissent donner à tous une qualité de vie digne et convenable. Et la loi de Moïse reflète l'amour de Dieu. Elle exprime sa compassion, son désir de voir les plus vulnérables comme les plus démunis avoir un statut dans la société, un avenir. Nous devons donc prier afin que nos sociétés, comme nos cultures et nos lois, reflètent davantage le caractère de Dieu. Car celles-ci ne doivent pas encourager ceux qui se complaisent dans la convoitise ou l'égoïsme. Elles doivent plutôt promouvoir la solidarité et le partage. Nous devons prier afin que nos lois viennent au secours des démunis, non pour les rendre dépendants ou paresseux, mais pour leur assurer de quoi subvenir à leurs besoins, leur donner la chance de travailler et de réintégrer la société. Et l'exemple de Boaz nous montre comment nous pouvons nous aussi agir. Car cet homme généreux n'a pas cherché à exploiter les faibles, au contraire, il s'est servi de ce que Dieu lui avait donné pour aider ceux dans le besoin et accomplir ainsi la loi de Dieu.
Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre
Vous venez d'écouter le cantique « Vous qui ployez sous le fardeau » chanté par Philippe et Marisa Butel. Donc avec Jean-Luc, nous discutons de la pauvreté matérielle. Lors de nos méditations bibliques, nous parlons de la pauvreté spirituelle. Après la lecture de Matthieu chapitre 5, verset 3, Pierre continuera à expliquer de quoi il s'agit.
Ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient.
Dans ce verset, Jésus nous invite à reconnaître notre pauvreté spirituelle, c'est-à-dire à admettre que devant les problèmes du mal et de la mort, nous ne pouvons rien, mais que nous demeurons totalement impuissants. Si nous prétendons orgueilleusement ne pas avoir besoin de Dieu, nous nous privons de son salut et nous destinons à la mort éternelle. Mais si toutefois, comme un mendiant en tendant la main dans l'espoir d'être secouru, nous mettons notre espérance en Christ, il nous ouvrira la porte à ces bénédictions merveilleuses. Mais quelles sont-elles? La promesse adressée à ceux qui reconnaissent le pauvreté spirituelle est celle-ci. Le royaume de Dieu leur appartient. Quel est donc le royaume de Dieu? Et en quoi peut-on se considérer heureux qui nous appartienne? Quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse, il déclare « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » D'un point de vue spirituel, nous appartenons soit au royaume des ténèbres, qui est celui des esprits mauvais, dont Satan est le maître, soit au royaume des cieux, qui est lumière et dont Jésus est roi. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres sont tenus dans l'aveuglement, car Satan et les esprits mauvais empêchent ceux qui y demeurent de voir la gloire et la grâce de Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres sont trompés et séduits par Satan. Esclaves du péché, ils s'enfoncent dans le malheur et se nourrissent de faux espoirs. Appartenir au royaume des ténèbres est terrible, à moins d'obtenir par la foi la délivrance apportée par Jésus. Le royaume des cieux, par contre, a pour Seigneur Jésus. Il est un roi bienveillant qui s'occupe des intérêts de son peuple. Il le libère des ténèbres, le réconciliant avec Dieu, qui devient pour ceux qui l'aiment un Père céleste. Ce Seigneur règne avec justice et équité. Il est patient et miséricordieux. Et comme tout bon roi, il assure la sécurité de son peuple, le protégeant contre tout ennemi et pourvoyant à ses besoins pour l'éternité. Selon la Bible, beaucoup préfèrent rester dans les ténèbres. Cependant, pour ceux qui souhaitent en être libérés, il faut venir à Jésus avec l'humilité d'un mendiant, les mains vides. Car c'est Jésus qui a le pouvoir de briser les chaînes asservissantes au royaume des ténèbres et de rendre libres ceux qui désirent devenir enfants de Dieu.
Tout à l'heure, Jean-Luc nous a rappelé que la loi de Dieu révèle en quoi les hommes doivent s'abstenir du mal et en quoi ils peuvent pratiquer le bien. Toutefois, chers amis, nous devons tous admettre que nous sommes très loin d'obéir parfaitement à cette loi. Nous sommes tous fautifs devant Dieu, et c'est pour cette raison que nous devons admettre notre pauvreté spirituelle et chercher auprès de lui son pardon et son aide.
Nous louons Dieu pour la révélation de sa justice et pour la largesse de sa miséricorde. En attendant notre prochaine émission, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.